Il est 18h01 sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est Déshabillez-moi.
Comment vous imaginez l'homme du futur ?
C'est une question assez difficile.
Peut-être l'apparence, je ne sais pas, parce que j'imagine que les prothèses seraient dissimulées.
Certainement un bonhomme qui est sur un siège à roulettes.
Parce qu'il est destiné à allonger la
vie. Il n'y aura plus besoin de marcher.
C'est pas nécessairement visible.
Je sais pas, 2 mètres de haut minimum.
Bah comme maintenant, avec des oreilles, un nez.
C'est quoi de toute façon l'homme du futur, ça sera la femme.
Bah comme maintenant. Ah si, ils seront plus grands. Que c'est la nouvelle génération, elle est plus grande.
Comme Avatar quoi.
Bleu, grand.
Ça, ça serait bien qu'on puisse avoir de pouvoir.
Pour les devoirs.
Quand tu sais pas quelque chose,
Maxence,
tu tapes dans ton corps. Arrête ton corps, il le sait. T'as ton cerveau, il le sait. Tu fais 2 coups ici. Arrête ton cerveau, il le sait.
C'est comme un escargot qui serait sorti de sa coquille. Et son arrière-train aurait pris une espèce de forme qui ressemblerait à des jambes. Et par contre, il aurait toujours ses 4 cornes. Et plus 2 autres cornes qui seraient à peu près des bras. Il serait très velu, il serait complètement célibataire. Tout le temps célibataire. Et plus de coquilles, donc plus de maisons. Et ça, c'est une espèce de Robinson dans la vie de tous les jours.
Mais l'homme, il n'existera plus.
Si l'homme n'existe plus, t'auras plus d'enfants.
T'inquiète pas. Tu connais pas les nouveaux trucs, in vitro, tout ça là ?
In vitro, mais
on va congeler le spermatozoïde.
Mais pour congeler, il faut qu'il y en ait.
Mais là, je suis quoi, moi ? C'est
trop compliqué, ça.
Bah oui, c'est toi qui as voulu y répondre.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Trop vite, sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Je suis née en 1952 en plein baby boom américain. Pour tout individu qui a grandi au début de la seconde moitié du 21e siècle, comme moi, l'avenir et ses potentialités terrifiantes étaient définis par 2 livres, 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ces 2 livres étaient infiniment plus prémonitoires que tout autre à l'époque, parce qu'ils étaient centrés sur 2 techniques différentes qui allaient effectivement apparaître et définir le monde au cours des 2 générations suivantes. 1984 abordait ce que l'on appelle maintenant les techniques de l'information. L'instrument essentiel du vaste empire totalitaire instauré en Océanie est un équipement appelé le télécran, vaste panneau oblong encastré dans un mur qui peut à la fois émettre et recevoir des images de chaque foyer individuel centralisé chez un Big Brother à vocation de contrôleur universel. Le meilleur des mondes, de son côté, abordait l'autre grande révolution technologique qui allait naître, celle de la biotechnique. La procréation, non pas in utero, mais in vitro, la drogue appelée Soma, procurant aux individus le bonheur instantané, et les modifications du comportement induites par répétition constante et subliminale, et par administration de diverses hormones, si cela ne suffit pas. Tout cela donnait à ce livre son atmosphère particulièrement terrifiante. C'est ainsi que Francis Fukuyama ouvre son ouvrage « La fin de l'homme, les conséquences de la révolution biotechnique » publié en 2002. Et c'est avec lui que nous faisons un léger crochet par le passé pour démarrer notre réflexion sur les liens entre la philosophie et la science-fiction. Si le film Matrix a mis en lumière pour le grand public les liens étroits qu'elles peuvent entretenir, impossible en effet de ne pas y voir la référence à la caverne de Platon, les auteurs de science-fiction, les cinéastes et autres essayistes n'ont pas attendu 1999 pour s'approprier des problématiques philosophiques. Mais l'intérêt est réciproque et la science-fiction aussi est un objet de réflexion pour les philosophes. C'est le cas de notre invitée, Sylvie Allouche, docteur en philosophie et maître de conférences à l'Université catholique de Lyon, à cheval entre la science dite dure et les sciences humaines, et spécialiste de la relation entre philosophie et fiction, et plus précisément de science-fiction. Bonsoir Sylvie Allouche.
Bonsoir.
Quand et comment la science-fiction est-elle devenue un objet d'étude pour les philosophes ? Comment la science-fiction inspire et s'inspire de la philosophie ? Comment la philosophie et la science-fiction pensent-elles notre monde en général, et l'homme en particulier ? C'est à toutes ces questions, et bien d'autres, que nous essaierons de répondre ce soir.
Et vous ?
Déshabillez-vous !
Alors ça fait beaucoup de choses hein, ce soir, Sylvie Allouche.
Oui, quand je vous ai entendu là avec toutes ces questions, j'avais peur d'avoir à répondre tout de suite à toutes ces questions.
Bien sûr, vous avez 4 heures, c'est parti. Alors on va commencer tout simplement, Sylvia Louche, par s'interroger sur c'est quoi les concepts forts, les auteurs immanquables, inratables quand on travaille sur la science-fiction en philosophie.
Alors, les concepts forts et les... Je ne sais pas exactement comment répondre à cette question. Disons, je peux l'aborder de deux façons. Il y a une réflexion générale que j'ai conduite depuis que je travaille sur ce sujet, c'est-à-dire depuis environ 15 ans maintenant. Il y a la question de... disons un peu méta-théorique, de en quoi la science-fiction peut être intéressante pour le philosophe. Et là, moi, ce que j'essaye de développer, c'est le passage en fait par la notion de monde possible. Monde possible, il y a tout un domaine de la logique qui s'appelle le réalisme modal, dont je ne suis pas du tout experte.
Vous pouvez nous dire juste à quoi ça consiste globalement, le réalisme modal ?
Alors, pardon, il y a la logique modale, qui est la logique qui s'intéresse aux énoncés qui font intervenir des notions de possibilité ou de devoir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement A et X, mais A peut être X ou A doit être X.
D'accord.
Donc ça, c'est la logique modale, donc c'est la notion de modalité. Donc on s'exprime pas seulement sur ce qui est, mais sur des façons d'être qui sont modalisées par la notion de pouvoir, devoir,
ce qui pourrait être, ce qui devrait être, voilà. Ce genre de choses. Donc il y a quelque chose de moral un peu aussi là-dedans, dans le devrait.
Alors je ne crois pas du point de vue de la logique, c'est vraiment en tout cas pas à ma connaissance.
D'accord.
Mais c'est plutôt un domaine dont je connais l'existence depuis longtemps et j'ai des collègues donc dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse, qui est donc l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques de l'Université Paris 1, où j'avais donc des collègues qui se sont spécialisés dans ce domaine. Mais moi-même, c'est quelque chose que j'aurais aimé approfondir. Je n'ai pas encore eu le temps, en fait. Donc, je ne vais pas pouvoir trop développer sur le sujet. Mais parmi, disons, les grands noms de ce domaine de la logique et de la philosophie, il y a un philosophe américain du XXe siècle qui s'appelle David Lewis et qui a défendu, et donc là j'en arrive au mot que j'ai utilisé tout à l'heure, qui défend une thèse de réalisme modal et qui consiste à dire que les mondes possibles existent. Vraiment. Enfin, une forme de réalité qui n'est pas uniquement le fait qu'on les conçoit dans notre esprit.
D'accord. Donc, ils peuvent être utiles pour le philosophe, pour la réflexion philosophique en elle-même, pour...
Alors, disons, la thèse de David Lewis, mais j'en sais pas beaucoup plus, c'est que pour résoudre un certain nombre de problèmes de logique, c'est finalement plus simple de considérer que ces mondes possibles existent. Maintenant, moi je pense que même si on n'adhère pas, disons, à la thèse métaphysique du réalisme modal, ça peut avoir une utilité méthodologique, c'est-à-dire que si on se représente les mondes possibles comme existants, ça leur donne une espèce d'indice de réalité, une force de présence qui fait qu'on va peut-être les explorer avec plus de précision que si simplement on les considère comme des purs produits de l'imagination.
D'accord.
Et le fait est que ces mondes ont une... il y a au moins une forme de réalité qu'ils imposent, c'est la réalité de la cohérence interne.
D'accord.
Voilà.
Alors, il y a quand même quelque chose dans la science-fiction et dans la philosophie d'une même démarche. Enfin, il y a dans la philosophie la volonté de pousser jusqu'au bout une idée pour voir un peu ce qui s'y passerait si vraiment on voulait l'appliquer réellement dans le concret ou dans la réalité, ou en tout cas si elle devait s'ancrer quelque part. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'on ne peut pas vraiment le dire ça ? Est-ce que la démarche est peut-être pensée comme similaire ou pas du tout ?
Alors, disons, là je reviendrai peut-être sur mon histoire personnelle. Moi, je lis la science-fiction depuis que j'ai 10-11 ans, je dirais. Il se trouve en fait que moi, c'est ma mère qui m'en a fait lire. Hein, souvent, les gens qui sont lecteurs de science-fiction racontent comment ils ont découvert seuls, et ça a été un moment d'illumination, la science-fiction. Moi, j'ai une histoire assez particulière, donc qui justifie peut-être, c'est ce que je me suis dit a posteriori, que j'ai eu ensuite l'idée d'entreprendre une thèse sur la science-fiction. puisque finalement c'était déjà dans la continuité de ma culture familiale. Mais donc quand je lisais de la science-fiction depuis longtemps, et quand j'ai commencé à rencontrer la philosophie, donc d'abord en fait en troisième parce que je faisais du grec et donc j'ai lu en grec mes premiers textes de Platon et ensuite, disons au lycée et plus spécialement en terminale, j'étais frappée effectivement par une communauté de thèmes et je donnerai même un exemple assez précis. Je me souviens quand j'ai lu la théorie du temps de Saint-Augustin, je me disais, mais en fait, cette théorie du temps, c'est exactement comme telle nouvelle de voyage dans le temps que j'avais lue dans, justement, la grande anthologie de la science-fiction, Histoire de voyage dans le temps. Voilà, il y a eu comme ça plusieurs moments où il y avait manifestement une même façon d'aborder les questions. Après, j'étais bonne élève et donc j'avais déjà pris conscience depuis le collège qu'il n'était pas vraiment question de parler de science-fiction. Alors, je pense que les choses ont beaucoup changé.
Oui.
Mais
c'est devenu un sujet autorisé.
Voilà. Mais quand j'étais moi-même au collège, ça l'était pas tout à fait. Et puis, tout simplement, je m'étais aussi une fois aventurée, quand j'étais en Cagne, à mentionner quelques livres de science-fiction dans une dissertation dont le sujet était « le possible ».
Et ça s'y prêtait bien, effectivement.
Voilà. Et le professeur, pour lequel j'ai beaucoup de respect, hein, qui était vraiment génial, m'avait mis en marge. En fait, je ne connais pas. Donc, il y avait aussi un problème, en fait, de manque de culture partagée sur ces questions.
C'est quelque chose qui n'intéressait pas les philosophes pendant très longtemps.
Oui, on peut dire ça. Alors, c'est vrai que la science-fiction, c'est bien connu, hein, a pâti pendant tout. Enfin, les trajectoires sont assez compliquées en réalité, mais pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, la science-fiction a pâti d'une image assez désastreuse dans le monde académique, dans le monde universitaire. Et donc oui, c'était pas une lecture légitime. Hein, beaucoup de gens racontent. Comment ils lisaient en cachette leurs livres de science-fiction. Et il y a un texte célèbre de Gérard Klein, qui est un auteur de science-fiction français et aussi qui dirige la collection de référence Ailleurs et Demain sur ce problème de légitimation de la science-fiction. Voilà, donc c'est pas tellement que les professeurs ne s'y intéressaient pas, mais c'est juste que c'était pas dans le champ de la culture partagée, de quelqu'un qui était dans le circuit de l'enseignement de niveau universitaire. Et c'est plutôt a priori les scientifiques qui lisaient en fait de la science-fiction, et donc ils ne se retrouvent et ils le lisaient pour leur plaisir.
D'accord.
Et il n'en faisait pas ensuite du tout un objet de travail universitaire.
Est-ce que d'ailleurs on peut penser un peu la science-fiction comme un pont possible entre la science dure, la physique, la biologie et la philosophie, les sciences humaines ? Parce que vous, par exemple, vous venez des deux disciplines, des deux champs. Et la science-fiction, est-ce que pour vous c'est un trait d'union entre ces deux champs ou pas du tout ?
Je pense pas qu'on puisse vraiment présenter les choses comme ça. Parce que, une des difficultés de la science-fiction, alors en fait, déjà, il y a une distinction très importante à faire entre la science-fiction telle que les gens la connaissent en général, surtout à travers les films de science-fiction hollywoodiens, et la science-fiction telle qu'elle est en son cœur, en son origine et en son cœur, qui est plutôt la science-fiction littéraire. Ce n'est pas du tout les mêmes publics, hein, même si en général, les amateurs de littérature de science-fiction aiment aussi les films de science-fiction.
L'inverse n'est pas forcément le cas.
Non, il y a beaucoup de gens qui pensent aimer la science-fiction et qui, en fait, ne se contentent d'aller voir des films. Et en fait, ça rend assez peu justice à ce qu'est véritablement la science-fiction. Parce que la science-fiction littéraire, en fait, a une difficulté. C'est que, en tout cas, après, il y a différents sous-genres, mais dans le genre qui, à mon sens, tous les spécialistes ne seraient pas d'accord, et le cœur et le centre de la science-fiction qui est centré sur des problématiques de science, Alors déjà, science au sens large, pas seulement science dure. Originellement science dure, mais dès les années 60, ça s'est élargi à l'ensemble des sciences. Mais la difficulté, c'est que justement, comme en général une œuvre de science-fiction utilise des connaissances scientifiques pour élaborer son intrigue, il y a quelque chose de très délicat à mettre en place pour l'auteur en termes de, des connaissances qu'il doit considérer comme déjà acquises par le lecteur. Donc il y a un universitaire qui a fait un travail très intéressant sur cette question. En fait, il faut que j'en cite deux. Et c'est deux Québécois. Le premier, c'est dans les années 70, Darko Suvin, qui développe la notion de novum. Et qui dit, dans toute histoire de science-fiction, il y a un novum, c'est-à-dire un dispositif qui est, donc du latin novum, une nouveauté par rapport au monde existant. Et l'histoire se bâtit à partir de ce novum. Il y a un autre auteur qui s'appelle Richard Saint-Gelais, qui, disons, dans une tradition un petit peu différente, qui est plutôt la tradition sémiotique, s'affronte à la même problématique, disons, dans une perspective légèrement différente. Et lui, il parle de xéno-encyclopédie. Donc, il se fonde sur un concept qui vient de Umberto Eco, l'encyclopédie, c'est-à-dire que quand on lit une fiction, en fait, on importe dans la fiction tout un tas de connaissances qu'on a dans le monde, le sens des mots, à quoi renvoient les mots, etc. Et la difficulté de... Alors là, pour le coup, pas seulement de la science-fiction, mais des littératures de l'imaginaire en général, donc fantasy, c'est que l'univers dans lequel on se retrouve, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas communs à notre monde. Et il va falloir éduquer le lecteur pour qu'il comprenne le fonctionnement du monde sans que ce soit barbant. Et ce qui était donc dans le texte, un des textes fondateurs de la science-fiction qui est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, donc c'est vraiment les débuts de la science-fiction, hein, dans les années 1930. Là, quand on le lit aujourd'hui, la méthode employée est très lourde, parce qu'en fait, pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du monde, il y a une visite du centre d'incubation, et puis il y a un spécialiste, un administrateur qui fait cours à des étudiants, qui prennent des notes et qui posent des questions. Donc ça, c'est vraiment le niveau zéro
de l'entrée en matière.
Et les auteurs de science-fiction aujourd'hui essayent quand même de faire les choses de façon un peu plus subtile. Et j'étais cette semaine à Clermont-Ferrand dans le cadre de journée d'études, et il y avait une auteure de science-fiction française qui s'appelle Catherine Dufour, qui était là aussi, et qui témoignait de la façon dont elle a écrit son roman qui s'appelle Le goût de l'immortalité, et elle-même, parce que c'est incontournable pour un auteur de science-fiction, racontait un peu les difficultés et quelle méthode elle a essayé d'employer pour faire face à cette question-là. Donc, pour revenir à votre question initiale, je crois pas qu'il s'agisse vraiment de faire des ponts entre ces différents domaines, parce qu'en fait, chaque science, c'est plutôt il y a une dimension possible de la science-fiction qui est une dimension de vulgarisation scientifique, mais pas seulement des sciences dures, de n'importe quel autre type de science. C'est rendu très difficile par le fait qu'il ne faut pas non plus ennuyer les lecteurs qui connaissent bien les sujets et de leur répéter pour la énième fois comment se fasse une fécondation in vitro ou quel est le béaba de ce qu'il faut savoir sur la physique quantique, etc.
Il faut toujours trouver le juste milieu entre les connaisseurs et les non-initiés, quelque part. Mais on va continuer cette réflexion dans quelques instants, on fait une petite pause musicale et on vous retrouve juste après.
Thank you.
Félix Cubine, hôtel Supernova. Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est Déshabillez-moi.
Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière.
Phase d'allumage moteur principal, H-10.
Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider.
9.
Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps ?
8.
Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance.
7.
Murphy, il faut que tu me parles.
6.
Il faut qu'on règle ça avant que je parte.
Tu sais même pas quand tu reviendras.
5. Allumage moteur principal.
Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde.
Non.
4.
Quand tu deviens parent.
3.
Il y a une chose qui te paraît très claire.
2.
Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité.
1.
Je reviendrai.
Mais quand ?
Je t'aime pour toujours.
Des mondes habitables, totalement à notre portée.
On échapperait à l'extinction.
C'est parti.
Tu ne peux pas penser qu'à ta famille, tu dois penser plus grand que cela.
Je pense à ma famille et à des millions d'autres.
Peut-être qu'on a passé trop de temps à essayer de régler tout ça au moyen de théories. Seul l'amour transcende le temps et l'espace.
N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, t'empêter au déclin du jour. Hurler, hurler contre la mort de la lumière.
Je vais pas m'en sortir!
Si, tu verras! On trouvera un moyen. On a toujours trouvé.
Déshabillez-moi.
Alors, vous venez d'entendre la bande-annonce en français, alors, c'est pas terrible en français, hein, c'est quand même toujours très désagréable, de Christopher Nolan, du film de Christopher Nolan, Interstellar, qui est sorti en 2014. Vous l'avez vu, Sylvie Alouche ?
Ouais, je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé.
Alors, il y avait dans ce film Interstellar, comme un peu dans Matrix, hein, mais Matrix, j'ai l'impression que c'était un peu le premier film comme ça de science-fiction, qui est grand public, qui intégrait vraiment des réflexions philosophiques sur le monde, sur la vérité, etc. Alors, comment on a vu apparaître ce nouveau genre un peu ? Donc, Christopher Nolan, quelque part, est un peu le cinéaste qui met en avant ces choses-là. Il y a toujours beaucoup de réflexions, justement, et pourtant, il fait des gros blockbusters américains qui marchent bien, qui font des supers audiences. Alors, comment on a vu apparaître des réflexions philosophiques à l'intérieur du cinéma de science-fiction ?
Alors, je ne suis pas historienne de la science-fiction, donc du coup, je vais... Enfin, il y a peut-être... Enfin, voilà, ma parole sur le sujet est peut-être... Enfin, je peux peut-être me tromper, mais je pense que dans... Disons, il y a là comme ça spontanément les films qui le premier film évidemment qui me vient à l'esprit, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. Donc ça, c'est évidemment, et puis alors, c'est une référence évidente de toute façon de Interstellar, mais c'est très certainement un film en tout cas qui a montré à quel point la science-fiction pouvait être philosophique. Mais je pense qu'avant ça, même Metropolis de Fritz Lang, je pense que ça m'était aussi assez bien. Donc là, c'est un film, je ne sais pas quelle est sa date exactement, mais c'est un film d'avant-guerre, qui montrait déjà que la science-fiction était une façon de poser des questions philosophiques. Alors après, bon, du coup, ça va me permettre de répondre à votre question de tout à l'heure, parce que je crois que j'avais fait un... comme très souvent, genre un grand 1 et puis le grand 2 est disparu. Toujours en attente. Mais donc, on peut, dans les concepts fondamentaux qui sont philosophiques, qui sont abordés via la science-fiction, il y avait donc ce que je disais sur une réflexion méta sur la méthodologie, comment on peut faire de la philosophie avec de la science-fiction via la notion de monde possible. Donc, c'est ce que j'avais répondu. Et après, sur le plan plus précisément des contenus, après, toute la philosophie, tout ce qui appartient au champ philosophique est susceptible d'être traité dans la science-fiction. Et autant, par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace traite, disons, de questions métaphysique ou aussi ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit, mm-hmm. hein, avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une personne peut surgir à partir d'un ordinateur? Et puis, on a des... dans Métropolis, c'est plutôt des questions politiques qui sont abordées. Et voilà, donc y a ça. Après, bon, donc effectivement, Matrix a joué un rôle très important dans la prise de conscience du grand public, oui. De la fonction philosophique potentielle de la science-fiction. Après, il y a une œuvre que vous n'avez pas citée, qui me paraît aussi importante et très belle, c'est Ghost in the Shell, oui. de Mamoru Oshii, qui est donc un animé japonais, qui est une adaptation d'un manga, d'une bande dessinée. Et donc le réalisateur Mamoru Oshii, donc à partir d'une BD de Masamune Shirow, introduit, disons que Masamune Shirow est plutôt du côté de la science. Il est très intéressé par tout ce qui est technologique. Mamoru Oshii reprend la trame de Ghost in the Shell, mais pour en faire quelque chose vraiment de philosophique, avec parfois de longs passages de réflexion philosophique, tout particulièrement dans le second Ghost in the Shell, Innocence, peut-être même un petit peu trop de passages philosophiques. Voilà, donc il y a effectivement un certain nombre d'œuvres comme ça, et Interstellar. Moi j'ai énormément aimé Interstellar, parce que je pense que c'est effectivement une des premières œuvres de science-fiction grand public filmique qui montre, qui aborde la question de la multidimensionnalité, enfin oui. tout ce qui se passe là au moment où les images de trous noirs et de comment, enfin, et de ce qui se passe ensuite dans l'intérieur du trou noir, moi j'ai trouvé ça, enfin ça rejoint, disons, des préoccupations que j'ai actuellement sur est-ce qu'on peut dans quelle mesure serait-il possible de voir en quatre dimensions spatiales, est-ce qu'on aurait besoin d'augmentation technologique pour pouvoir accéder à... En fait, pour dépasser, pour faire un petit peu de philo, pour dépasser ce que Kant appelle les formes a priori de l'intuition. Donc, on est... On
peut voir à travers l'espace et le temps. Et
voilà, donc notre rapport au monde, nous dit-il, est l'interface de notre rapport au monde... une interface dans le temps et dans l'espace à trois dimensions. Et moi, je m'intéresse aux modalités qui nous permettraient éventuellement d'échapper à ces formes a priori de l'intuition. Et donc, pour ça, Interstellar était vraiment intéressant.
Donc, Christopher Nolan a fait mieux que Emmanuel Kant.
Oui, enfin,
il a mis la raclée quand même. Hein.
Voilà, disons qu'il envisage ce que Kant n'envisage pas. Pas, à ma connaissance, la possibilité qu'on puisse transcender, en fait. Mais justement, ça, c'est l'esthétique transcendantale chez Kant, qu'on puisse transcender ces limitations, ces limitations qui nous sont imposées, en fait, par... alors, on ne sait pas trop par quoi, justement, parce que c'est transcendantal, mais par la nature. Est-ce que c'est notre nature ou est-ce que c'est la nature du monde?
Alors, je crois, Sylvia Louche, que vous avez amené un texte.
Oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte?
Alors, c'est un texte que j'aime beaucoup, que je mentionne régulièrement. C'est un article, en fait, d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Paul Di Filippo. Et j'ai apporté la version traduite. Je préfère évidemment la version anglaise, mais bon, j'ai pensé que...
C'est plus compliqué.
Voilà. Et donc, le titre, c'est « Né de chien et esprit d'arbre, l'avenir de l'art ». En plus, c'est très, très bien parce que... Vous ne le saviez pas, mais l'extrait, du coup, va s'enchaîner de façon extrêmement fluide avec ce qu'on vient de dire.
C'est parfait. Eh bien, allez-y, on vous écoute.
Donc, en fait, je vais lire le début du texte et la fin du texte.
D'accord.
Donc, né de chien et esprit d'arbre, l'avenir de l'art. Je suis accro aux expériences indirectes. Je consacre une bonne moitié de mon temps à produire ou à consommer des morceaux de réalité simulés en boîte. Malgré la valeur intrinsèque de ma propre vie et la fascination qu'elle me procure vécue minute après minute, dans l'immédiateté du temps présent, je ne me lasse jamais des expériences par procuration, qu'elles concernent des personnes véritables ou imaginaires. Or, je n'ai pas à rougir de ma dépendance. Je partage cette affliction avec l'humanité entière. En effet, il s'agit sans doute là d'un trait caractéristique de l'humanité ou de toute espèce dotée de sensibilité, un besoin narcissique, voyeuriste, inhérent de créer et de consommer des expériences secondaires qui ne seraient pas directement vécues par celui qui les perçoit. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous pouvons devenir l'étranger. Il est peu probable que des individus appartenant aux autres espèces terrestres ressentent cette pulsion de partager les vies extérieures ou intérieures d'autres membres de leur espèce. Malgré leur intelligence et leurs émotions, je serais surpris d'apprendre que des singes, des chiens, des dauphins ou des chats se font part de leurs rêves et de leurs désirs. Seule l'humanité semble faire preuve d'une telle capacité d'empathie qui, d'un extrême à l'autre, consiste soit à échanger de petits comptes rendus d'activités quotidiennes, soit à se glisser presque entièrement dans la peau de l'autre. Donc ça, c'est le début du texte. Et j'ai fait quelques coupes, mais voilà l'essentiel de la fin du texte. Penchons-nous sur ce que je nomme « overlay ». Un overlay serait une série de perceptions, de réactions et de pseudo-souvenirs encodés à partir du cerveau que l'on pourrait acheter et installer afin d'améliorer une expérience artistique. Bien qu'il serait sans doute absolument palpitant de s'approprier l'esprit d'une personne de sexe opposé ou d'une toute autre culture, les humains ne seraient pas les seuls à fournir ce genre de transcription. Nous pourrions en fin de compte nous libérer de la Weltanschauung propre à notre espèce et prendre conscience du fonctionnement d'un autre type d'esprit. Peut-être est-ce là l'ultime objectif sous-jacent de toute recherche artistique. S'immiscer dans les intellects d'animaux sauvages ou de compagnie, et même dans ceux des arbres, si tant est que l'on puisse recréer un semblant de conscience à partir de leurs fonctionnements univoques, serait une véritable forme de libération. Faire l'expérience d'esprits étrangers permettrait sans doute de découvrir de nouvelles émotions. Alors là, je saute un petit bout. Que ressent un séquoia au seuil de ses 5 siècles d'existence ? Peut-être pourrons-nous un jour y répondre, et si nous n'y parvenons pas sous forme de mots, nous le ferons en cherchant un module d'extension sur les étagères de notre bibliothèque. En tant que consommateur d'art absolu et invétéré, je souhaiterais être encore de ce monde lorsque ce jour viendra. Voilà, donc c'est un texte qui est paru initialement de Amazing Stories Magazine en 2000. Merci beaucoup.
Terrestre, mon petit ami.
Christine Pilzer, mon petit homme spatial. Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Alors Sylvia Louche, vous venez de nous lire un extrait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi l'avoir choisi lui?
C'est un texte que j'aime beaucoup. Et le reste du texte, hein, que je n'ai pas eu le temps de lire, évidemment, je vous encourage à le lire. Le texte est librement accessible sur rosab.net. Je pense en fait c'est parce qu'il explique il développe une perspective qui m'intéresse et je pense que c'est une des missions effectivement, enfin je souscris évidemment essentiellement à ce texte qui est écrit à la première personne de Paul Di Filippo, mais j'y souscris pour l'essentiel. Et alors, il ne s'agit pas du tout de définir l'art ou de dire quelle serait la principale fonction de l'art. C'est un terrain beaucoup trop dangereux. Mais en tout cas, c'est peut-être pour moi une des missions possibles, effectivement, de l'art, hein, art tout compris, hein, littérature, etc., qui est donc de nous faire partager des subjectivités alternatives. C'est certainement une des choses que fait l'art, et ce qui me paraît extrêmement intéressant avec la science-fiction, c'est qu'elle, par la méthodologie qu'elle met en œuvre, elle nous donne la possibilité, au-delà de ce que fait ce qu'on appelle depuis la science-fiction, la littérature générale, les œuvres, disons, narratives, littéraires, cinématographiques, les plus courantes, nous font partager d'autres subjectivités, mais d'autres subjectivités humaines, soit de notre société, soit d'autres cultures. Là où la science-fiction est particulièrement intéressante, c'est qu'elle nous donne éventuellement la possibilité, par l'imagination, de partager des subjectivités non humaines. Et là, en fait, même s'il y a quelques œuvres qui vont dans ce sens et qui peuvent donner quelque chose une idée ou l'illusion qu'on a partagé, on a touché du doigt de l'esprit ce que pourrait être d'être autre chose qu'un humain, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour tous les écrivains de science-fiction en herbe, parce que je pense qu'il y a... Je crois au pouvoir de l'imagination, mais je crois qu'ils n'ont pas encore été loin de là, exploités... ils n'ont pas été... Il reste encore beaucoup de choses à faire dans le domaine, et donc je trouve que c'est très excitant. Maintenant, se pose la question de savoir est-ce que, malgré les pouvoirs incroyables de l'imagination, peut-être qu'on reste malgré tout limité dans notre esprit tel qu'il a été donné par la nature, et peut-être que pour aller au bout de cette... De cette idée de partager des formes de subjectivité alternatives, il faudra développer d'autres formes d'art. Alors, ça fait plusieurs années que je réfléchis à travers diverses communications à, par exemple, hein, et en m'inspirant de la science-fiction, à des formes d'art qui seraient donc de l'art cérébral. Enfin, j'ai appelé ça comme ça.
C'est-à-dire hein,
donc, c'est-à-dire des formes d'art qui en gros... d'une façon ou d'une autre, via des technologies, hein, interviennent directement sur le cerveau.
D'accord. Hein,
donc, soit par le moyen de drogue, soit par moyen de comment.
Et les sons, par exemple, aussi, qui pourraient, par le biais du conduit auditif, quelque part, influencer le cerveau, être une manière de... Parce que la musique, pour le coup, arrive... Elle passe bien sûr par d'autres chemins, mais elle arrive quand même quasiment directement au cerveau. Donc, quelque part, il y a aussi...
Oui, alors là, en fait, pour moi, vous reprenez d'une certaine façon une thèse de Schopenhauer dans Le Monde comme volonté, comme représentation.
On a toujours été très proches, Schopenhauer et moi.
et qui dit que la musique, c'est un peu la reine des formes artistiques, parce qu'elle est... Enfin, l'essence du monde chez Schopenhauer, c'est la volonté, et la musique est la représentation, et quasiment plus finalement de la représentation, la plus proche de la volonté. Et donc effectivement, la musique, ça permet, enfin c'est une... voies possibles d'exploration de mondes alternatifs possibles, avec cet élément extrêmement intéressant, je pense, qui est que, en général, avec la musique, on est déjà dans l'abstraction. Mmh. Donc, on est déjà dans des ça nous ouvre des portes de subjectivité, effectivement, qui peuvent, en fait, être assez étrangères à notre vie de tous les jours, qui est plutôt une vie, narrative et de représentation. Mais pour vous donner un exemple, j'ai récemment travaillé sur il y a plusieurs exemples. Il y a une nouvelle que j'aime beaucoup de Jean-Claude Dugnac qui s'appelle « Détails de l'exposition », je crois, ou « Détails d'une exposition », enfin c'est quelque chose comme ça, et où en fait des artistes se font modifier le cerveau, et il faut avoir un don particulier, mais ces artistes qui ont un don particulier, quand ils se font modifier technologiquement le cerveau, ça leur permet d'accéder à des mondes alternatifs. Voilà, alors là, il y a la possibilité d'accéder à des mondes alternatifs possibles est aussi de façon réflexive un sujet très important dans le domaine de la science-fiction.
Quelque part, c'est ce qui apportait aussi les drogues chez les artistes, les poètes, les littéraires, avec l'importance de drogues qui ouvrent justement des mondes alternatifs, quelque part.
Alors, je pense effectivement qu'on ne doit pas... c'est
le mal rapport à la entre... drogue, mais...
Voilà, c'est ça. C'est toujours un sujet délicat. Il y a de toute évidence un lien qui peut être, en tout cas qui doit être examiné entre l'utilisation de drogue et la réalisation d'œuvres artistiques. Et bon, il y a ce texte célèbre d'Aldous Huxley sur les portes de la perception, on a les paradis artificiels. Voilà, donc il y a des artistes qui utilisent des drogues pour, encourager leur inspiration. J'ai écrit un texte qui est paru récemment dans un livre qui s'appelle Post-humain. Puis, bon, il y a un second titre, mais un peu plus compliqué. Et mon texte s'appelle, je crois, « Encore au bord de la fenêtre des sens ». Pour une exploration de l'aesthésie extra-humaine. Donc on est toujours dans ces thématiques-là, et j'y parle de plusieurs œuvres. Alors Rimbaud, pour moi, et son programme, ce que j'appelle son programme de recherche, d'explorer l'inconnu. J'y parle aussi d'un auteur que je n'ai pas encore cité, et qui est pourtant très important dans mon travail, qui est un auteur australien de science-fiction qui s'appelle Greg Egan. Et qui imagine qu'il y a des modules qu'on s'implante dans le cerveau et qui peuvent permettre en fait de recâbler le cerveau et de changer non seulement des perceptions, mais changer aussi sa personnalité, changer ses croyances. Donc c'est extrêmement intéressant sur le plan philosophique. J'y mentionne aussi Elisabeth von Harbour, une série de 5 volumes, je crois, qui s'appelle Tyrannaël. Et elle-même fait implicitement référence à Rimbaud. Alors, que dire ? Oui, les drogues sont forcément un sujet extrêmement important par rapport à cette idée qu'on puisse explorer d'autres formes de subjectivité. Maintenant, en un sens, elles sont limitées, puisque finalement, alors outre que ça peut être dangereux et que si on les utilise, il faut vraiment faire extrêmement attention, et qu'il y a aussi beaucoup de témoignages de personnes qui disent en fait que on aurait l'impression, quand on est sous l'effet d'une drogue, d'être génial, d'avoir des idées fantastiques, et puis finalement, quand on revient à son état normal de lucidité, en fait, c'était loin d'être aussi génial que ce qu'on s'était imaginé. Voilà, donc il y a aussi des gens qui... alors, c'est difficile parfois de savoir si c'est pas juste un discours un petit peu moralisateur, mais qui disent en fait, non, les drogues ne servent absolument à rien. Ça ne donne que l'illusion du génie, et ça n'inspire... ça ne sert à rien pour l'inspiration. Mais en tout cas, Moi, il me semble que les drogues telles qu'elles existent, elles ne font finalement que recomposer avec du préexistant. Et d'une certaine façon, moi, mon projet est beaucoup plus radical, puisque il s'agirait de, si c'est possible, hein, je sais évidemment pas du tout si c'est possible, mais pas seulement de recomposer à partir de la biochimie du cerveau telle qu'elle existe déjà, mais enfin, et c'est aussi ce dont parle Di Filippo, aller au-delà. Et je ne pense pas, par exemple, que les drogues biochimiques telles qu'elles existent aujourd'hui puissent, je me trompe peut-être, hein, mais puissent véritablement nous donner à percevoir en quatre dimensions spatiales ou plus.
Il faudrait tout essayer pour voir. On trouvera des cobayes pour nous dire si ça peut fonctionner ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et à vous entendre, hein, la science-fiction propose donc une réflexion sur l'homme et sur l'avenir de l'homme, ce qui est les potentialités de l'homme. Donc on parle d'homme augmenté, de transhumain, d'intelligence artificielle, etc., etc., qui sont donc des thématiques qui sont abordées par la philosophie aussi. Est-ce que la science-fiction a permis d'ouvrir cette réflexion philosophique sur l'avenir de l'homme, sur ce qu'est l'homme du futur, et comment est-ce qu'elle l'a nourri au quotidien? Est-ce qu'elle la nourrit d'ailleurs ou pas du tout?
Alors ça, c'est une question sur laquelle je me suis pas mal penchée, effectivement. Donc ce qu'on n'a peut-être pas déjà mentionné, parce que c'est vrai que donc un de mes champs de spécialité, c'est philosophie et fiction,
oui,
hein, mais c'est aussi donc transformation du corps humain, puisque j'ai fait ma thèse sur, même si elle s'appelle pas comme ça, sur les enjeux philosophiques de la transformation du corps humain dans la science-fiction. Et effectivement, moi, il me semble, donc il y a un mouvement d'idées qui existe à l'échelle internationale, qui s'appelle le transhumanisme, hein, et qui appelle de ses voeux, ou en tout cas qui revendique la liberté de pouvoir modifier son corps pour pouvoir bénéficier de possibles technologiques. Et à cette revendication de liberté d'accès est associée, en tout cas c'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le transhumanisme qui me paraissent des caricatures, et puis après chacun a un peu sa version du transhumanisme. Mais pour moi, le transhumanisme, voilà, c'est cette revendication de liberté d'une part, et deuxièmement, bon an, mal an, un optimisme sur le fait que, même s'il y aura des problèmes à régler, etc., ça va marcher. Et effectivement, à mon sens, quand on lit en fait le programme transhumaniste et qu'on connaît de la science-fiction, on ne peut être que frappé par l'influence. La communauté de thèmes, hein, et donc moi j'ai une petite phrase pour traduire ça. Ce que les auteurs de science-fiction ont présenté sous forme de fiction et de jeu de l'esprit, en fait, malgré tout, les transhumanistes l'ont transformé en programme politique. Maintenant, les transhumanistes eux-mêmes, comme toujours quand les gens font des choses qui ressemblent à la science-fiction ou s'inspirent de la science-fiction, ont un rapport extrêmement compliqué avec la science-fiction. Il y a des transhumanistes, par exemple Anders Sandberg, qui est à Oxford, qui aime la science-fiction, qui revendique son goût sur la science-fiction et qui n'a aucun problème à dire qu'il est inspiré de la science-fiction. Mais alors là, après, c'est en partie un témoignage indirect que j'ai via Anders Sandberg, mais Nick Bostrom, avec qui il travaille aussi à Oxford et qui est le cofondateur avec David Peirce en 1997 de l'Association Transhumaniste Internationale, lui exprime une très grande méfiance vis-à-vis de la science-fiction, parce qu'il l'accuse de donner toujours une vision, notamment à travers les films hollywoodiens, une vision extrêmement négative des développements technologiques. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens qui disent exactement le contraire. Il y a des gens qui disent de la science-fiction qu'elle donne une vision beaucoup trop positive des développements technologiques.
Alors, moi, j'avais un petit extrait d'une série qui s'appelle Black Mirror, qui justement est plutôt dans la première manière d'accueillir en fait la science-fiction et le transhumanisme, avec la crainte. Enfin, ça, c'est pas vraiment du transhumanisme, mais c'est en tout cas l'évolution du monde dans lequel on vit, et cette société des écrans, et cette peur en fait d'arriver dans des écueils et des dilemmes moraux dont on n'arrivera pas à se sortir. Donc, on va écouter un petit extrait, c'était une annonce donc pour un des épisodes de Black Mirror. On va l'écouter tout de suite.
Et si vous pouviez stocker tous vos souvenirs et revivre à l'infini?
Lecture labiale autorisée.
Avec Jonas, on a eu une aventure il y a longtemps.
Tu as menti.
Ne pas dire toute la vérité ne signifie pas forcément mentir.
Tout le monde fouille dans sa puce à la recherche de ses meilleurs coups pour se donner des sensations de temps en temps.
Tu es resté avec lui combien de temps?
Quelle importance!
Est-ce que c'est là que tu te masturbes en regardant ma femme?
Déshabillez-moi.
Alors là, on aborde la question du souvenir. Donc, des hommes qui auraient une sorte de mémoire interne, comme un ordinateur, et qui pourraient garder en mémoire toute leur vie et revenir en arrière et regarder des souvenirs dont ils sont plus tout à fait sûrs, dans des disputes avec leur conjoint sur est-ce que à ce moment-là, t'as échangé un regard avec ce type-là ou pas. Regarde, on va le regarder ensemble. Tu vas voir. Je te jure que si c'est passé comme ça. Alors ça, effectivement, donc Black Mirror, c'est toujours un peu fataliste. On a toujours très peur de ce qui va arriver. On se dit oulala. Non, la technologie c'est fini, on n'en veut plus, on ne veut pas aller plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sylvie Allouche, de tout ça?
Alors, à titre personnel, j'aime bien archiver tout un tas de choses. Donc, d'une certaine façon, j'aime bien prendre des photos un peu partout où je vais, enregistrer des conversations, des choses comme ça. Donc, ça me parle. Je gardais des objets, toutes sortes, des petits souvenirs de la vie de tous les jours. Ça me parle en même temps et, enfin, en même temps, évidemment. Enfin, je suis par rapport au développement technologique, j'ai une position. Je pense que j'ai une. Contrairement à beaucoup de d'analyses contemporaines du développement technologique et notamment du transhumanisme, je suis plutôt quelqu'un de technophile à la base. Mmh. J'aime la nouveauté technologique. Enfin, je suis plutôt technophile. Mais c'est vrai que cette technophilie, disons de court terme, est associée à un pessimisme. Je suis assez pessimiste sur la façon dont tout ça va finir.
D'accord.
Donc, autant moi, j'ai pas, par exemple, de prévention particulière avec un des grands objectifs du transhumanisme, qui est de prolonger très durablement la vie. Moi, je ne crois pas, comme beaucoup de gens, que la perspective de la mort à court terme soit constitutive de la vie. Et si je pouvais, comme dans plein d'histoires de science-fiction, avoir la perspective de vivre plusieurs centaines d'années, voire plus, j'ai pas l'impression que je m'ennuierais, etc. etc. Voilà, donc je suis plutôt technophile et il y a un certain nombre de projets transhumanistes dans lesquels je me reconnais. Là où je me sens pas justement transhumaniste, c'est que je suis pessimiste, et l'une des raisons principales de mon pessimisme, c'est la société de contrôle, en fait, qui est en train de se mettre en place via la digitalisation des personnes. Et voilà, autant très ponctuellement pouvoir faire tout ce qui est imaginé dans cet épisode de Black Mirror, ça m'intéresserait. Et en même temps, quand on regarde The Big Picture, surtout à la lumière des révélations récentes sur la surveillance généralisée dont on est déjà l'objet, ça me paraît extrêmement effrayant. Et j'ai récemment d'ailleurs écrit un article que j'ai présenté lors d'un colloque du CNRS sur les big data.
Oui, très à la mode les big data en ce moment.
Alors, évidemment, je ne me souviens plus exactement du titre de l'article, qui était en plus en anglais, mais où j'évoque précisément cet épisode, en fait, de Black Mirror, dans le cadre d'une réflexion sur l'idée qu'on se dirige de plus en plus, sauf catastrophe technologique ou épuisement des ressources, enfin, ou catastrophe naturelle, on se dirige vers une société où tout va être digitalisé. Alors ça donne il y a une perspective intéressante, enfin, tout va être numérisé. Il y a une perspective, ça donne des objets de réflexion science-fictionnelle, philosophique intéressants, quand on imagine qu'il y a des personnes qui peuvent être numérisées. Donc à partir de quel moment une personne peut exister sur un support informatique. Donc ça, c'est des questions science-fiction, philosophie qui sont extrêmement intéressantes. Mais sur le plan politique, ça me paraît extrêmement effrayant. Et en fait, alors là, je vais faire quelque chose qui est parfois critiqué. C'est, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais je vais profiter justement là, du micro que j'ai pour... Y a souvent, on critique... Enfin, moi, j'appelle ça, en fait, moi, le test du nazisme. Alors, souvent, c'est vrai que parfois, c'est un peu exaspérant. Quand les discussions s'enveniment, les gens finissent toujours par faire référence au nazisme ou s'accuser les uns les autres d'être des nazis. Donc, et parfois, ça tue la discussion au lieu de la nourrir. Maintenant, je pense que ce que j'appelle le test du nazisme, je pense que je le revendique et je pense que c'est intéressant. Et donc, souvent, en matière de technologie, en fait, pour essayer de les évaluer sur le plan de leur danger, je me pose la question, et si les nazis avaient disposé de cette technologie ? Voilà. Et si...
Effectivement.
Voilà. Et donc, si... c'est arrivé. Il y a de nouveau eu des génocides très récemment dans les années 90. Il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y ait pas de nouveau des fous furieux génocidaires, quelles que soient leurs victimes potentielles, reviennent en situation de pouvoir et leur permettent d'avoir accès à ce type de technologie. Et voilà, et donc, si des nazis ou des génocidaires en général, en fait, c'est plutôt ça, c'est des gens qui ont des furieuses envies de génocide, disposent de ce genre de technologie, et je trouve ça extrêmement effrayant. Et j'aimerais pas leur donner des idées, mais en fait...
Qui m'écoute par Radio Campus Paris aujourd'hui.
Voilà. Par exemple, y a beaucoup de juifs qui ont été sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient cachés dans des greniers, dans des caves. Mais aujourd'hui, on a des lunettes infrarouges. Et déjà maintenant, en fait, si les nazis avaient disposé de viseurs infrarouges, y a des milliers de personnes qu'ils auraient pu attraper. Donc ces lunettes infrarouges couplées à un système qui existe déjà, couplées à un système centralisé qui permettrait en fait de tracer toutes les signatures infrarouges qui sont sur un territoire. C'est très, très effrayant.
Et on en revient au Big Brother d'Orwell, finalement, 1984.
Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Sylvie Allouche. Alors, pas d'entretien psy aujourd'hui, d'abord parce qu'on est en retard et en plus parce que vous êtes déjà beaucoup livrée quand même dans cette émission. On a réussi à en savoir un petit peu plus sur vous et le pourquoi de cet intérêt pour la science-fiction. Tout de suite, c'est Récréation sonore sur Radio Campus Paris. Et à partir de demain, quelque chose d'important sur Radio Campus Paris, on fait table rase de la grille d'antenne pour laisser place à Brouillage, notre festival de jeunes créations radiophoniques organisé par Radio Campus Paris et La Loge. Retrouvez le programme sur le site www.radiocampusparis.org et sur le Facebook de la radio ainsi que sur le Tumblr dédié spécial Brouillage. Merci à tous, merci beaucoup Sylvie Allouche, merci à Corentin pour la réalisation de cette émission et puis on vous retrouve dans un mois.